Dans les pas des géantes. Elles ont marqué l'histoire des sciences, parfois sans qu'on le sache, souvent sans que l'on s'en souvienne. Dans les pas des géantes dresse chaque quatrième mardi du mois sur Radio B le portrait de ces femmes de science remarquables et pourtant méconnues. Laissez-vous inspirer avec Altech, le centre de culture scientifique de l'Ain. Bonjour à tous, je suis Camille Roll de l'association Altech et je suis très heureuse de vous retrouver sur Radio B pour une nouvelle saison. Alors après avoir discuté des évolutions sociétales apportées par le numérique dans Planète Num, puis vous avoir partagé quelques bulles de science, je suis heureuse de partager avec vous cette nouvelle saison intitulée « Dans les pas des géantes ». Pourquoi cette thématique ? Eh bien tout simplement parce que notre imaginaire collectif manque cruellement d'exemples de femmes scientifiques remarquables et inspirantes. Alors ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de femmes scientifiques, bien au contraire. On connaît tous au moins le nom de Marie Curie. Mais elle n'est pas la seule femme qui a marqué l'histoire des sciences, c'est tout simplement que les autres ne sont pas suffisamment connues. Cette saison, nous allons donc vous faire découvrir différents portraits et parcours de femmes qui ont marqué l'histoire de ces sciences. Avant de commencer cette série de portraits, revenons sur un constat. Les femmes restent encore aujourd'hui peu présentes dans les domaines scientifiques. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui avec ma collègue à Altech, Claire Stremsdorfer. Bonjour Claire.
Bonjour Camille.
Alors, encore aujourd'hui, la parité dans les filières scientifiques et techniques, c'est loin d'être gagnée.
Oui, en effet, plusieurs chiffres le prouvent. Si on regarde de côté des formations, d'après une analyse de l'Observatoire des inégalités, les femmes ne représentent que 38% des effectifs dans les formations scientifiques à l'université. Après, ce chiffre descend même jusqu'à 29% pour des filles dans les écoles d'ingénieurs et entre 10 à 20% maximum dans toutes les formations professionnelles techniques. Du numérique ou encore dans les mathématiques.
Ouais, les filières où vraiment elles sont le moins présentes. À noter que plus largement, on assiste depuis les années 80-90 à un déclin de l'intérêt des jeunes pour les sciences, et ce, partout dans le monde. Mais du coup, ce déclin, il est encore plus grand chez les jeunes filles. Et Claire, on imagine que si elles sont déjà peu présentes dans les formations post-bac, elles le seront encore moins dans les carrières scientifiques.
Oui, on estime que sur 115 disciplines scientifiques, 85 d'entre elles sont majoritairement dominées par les hommes. Pour donner un exemple plus concret, au CERN, donc le laboratoire européen pour la physique des particules, qui est situé dans l'Ain, entre l'Ain et la Suisse, les femmes représentent seulement 20% de l'ensemble du personnel.
20% de femmes au CERN, c'est vraiment peu. Après, bien évidemment, ce n'est pas un cas isolé. Il y a de nombreux organismes de recherche et même des entreprises qui souffrent de ce manque de représentation des femmes dans les filières scientifiques et techniques. Et il faut dire aussi que pendant longtemps, on peut remonter jusqu'à la Grèce antique, l'accès aux sciences a été fortement limité, voire même interdit aux femmes. Et quand les femmes pouvaient enfin y participer, généralement, leur contribution, elle était largement passée sous silence.
Vous parliez de la Grèce antique. On sait que de nombreuses femmes ont, par exemple, participé aux travaux de Pythagore. Pourtant, tous ces travaux ont été publiés sous le nom de Pythagore, sans qu'aucune de ces femmes ne soit citée ou reconnue pour leurs travaux.
Ouais. Au Moyen-Âge, la religion et la société de l'époque vont même jusqu'à interdire aux femmes l'éducation et leur participation à ce qu'on appelle le travail artisanal de la science, sous prétexte tout simplement qu'elles créent de la concurrence.
Et ces interdictions vont durer encore plusieurs années. Au XIe siècle, par exemple, c'est l'apparition des premières universités, mais elles sont interdites aux femmes. En 1688, il y a même une loi qui interdit aux femmes d'exercer un métier scientifique. Ou alors, il va falloir attendre le siècle des Lumières pour que certaines femmes arrivent à prendre de l'importance et marquent l'histoire. On peut citer par exemple Émilie du Châtel, qui était une disciple de Voltaire et c'est l'une des premières femmes scientifiques dont on a conservé les écrits.
Ouais, c'est ça. C'est que même si l'histoire ne leur a pas forcément simplifié la tâche, c'est important de souligner qu'il y a quand même certaines femmes qui arrivent à percer dans ces domaines scientifiques, même si bien souvent elles appartiennent évidemment à la haute société. Hein, elles sont soutenues, elles ont les moyens de pouvoir se donner cet enseignement scientifique. Au final, c'est au 19e siècle, les femmes restent encore largement éloignées des disciplines scientifiques, notamment à cause d'un enseignement, là encore, des sciences, qui leur reste interdit ou en tout cas qui est très difficile d'accès pour elles.
Bah, il faut se remettre aussi dans l'état d'esprit de l'époque, où les femmes étaient globalement jugées incompétentes pour comprendre des travaux scientifiques. Elles avaient pour maigre réconfort, si je puis dire, avoir accès aux progrès scientifiques et aux recherches uniquement à travers de discussions ou des ouvrages de vulgarisation scientifique qui leur étaient spécialement destinés.
Et puis c'est finalement au XXe siècle que la place des femmes dans les sciences va pouvoir évoluer petit à petit, notamment aussi grâce aux avancées féministes de l'époque, avec plusieurs figures qui vont apporter de grandes avancées scientifiques. On a plusieurs exemples marquants dans l'histoire.
Oui, on peut citer quelques exemples marquants. Il y a Marie Curie, bien évidemment, qui était une femme scientifique d'origine polonaise qui obtiendra deux prix Nobel, un en physique puis un en chimie. C'était une pionnière sur la recherche de la radioactivité et, et la première femme à obtenir un prix Nobel et la seule à ce jour en avoir obtenu deux. Après, on a Rosalind Franklin, qui est une biologique moléculaire qui a découvert la structure en double hélice de l'ADN. Malheureusement, ces travaux ont été utilisés par trois autres scientifiques qui décrocheront le prix Nobel sans qu'elle soit associée à ce prix ou reconnue pour sa découverte.
Autre figure marquante de l'histoire des sciences, on peut citer Katherine Johnson, scientifique afro-américaine dont les calculs ont permis d'envoyer les premiers hommes sur la Lune. Et c'est d'ailleurs le travail de Katherine Johnson et de deux autres scientifiques afro-américaines, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, qui a été mis en lumière récemment dans le film Les Figures de l'Ombre.
Dans les pas des géantes, sur Radio B.
Claire, on vient de voir dans cette première partie qu'il a toujours été difficile pour les femmes de percer dans les domaines scientifiques et techniques, ou en tout cas d'être reconnues pour leurs travaux au même titre que les hommes. Ce manque de représentation, d'exemples marquants de femmes scientifiques, comme on pourrait avoir chez les hommes Newton, Galilée, etc., c'est l'une des hypothèses pour expliquer le fait que les jeunes filles, encore aujourd'hui, ont du mal à se projeter dans une carrière scientifique.
C'est en effet difficile pour elles de se projeter dans les filières scientifiques si elles ne rencontrent pas des figures féminines au cours de leur cursus, soit des exemples donnés par les manuels scolaires ou même des enseignantes en sciences. L'association Femmes et Sciences, qui encourage la représentation des femmes dans les filières scientifiques, écrivait à ce juste titre dans un rapport de 2017 « Les métiers scientifiques sont mal connus, les visages féminins inconnus et le résultat de leurs travaux également. » Alors, comment pouvoir se projeter ?
Ouais, en parlant des résultats des travaux menés par des femmes, on peut d'ailleurs citer une autre cause au manque de représentation des femmes dans l'histoire des sciences. C'est ce que l'on appelle l'effet Matilda.
Alors, l'effet Matilda, c'est une théorie en sociologie des sciences qui désigne le déni ou la minimisation récurrente et systématique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à ses collègues masculins.
Et vous donniez l'exemple tout à l'heure de Rosalind Franklin, cette biologiste qui a découvert la structure en double hélice de l'ADN. C'est malheureusement un exemple avéré de l'effet Matilda. D'ailleurs, elle s'est fait carrément piquer ses résultats par ses collègues masculins. Malheureusement, c'est loin d'être la seule dans l'histoire des sciences.
En particulier dans la course au prix Nobel, on retrouve plusieurs exemples de l'effet Matilda, et ce, dans toutes les disciplines scientifiques. En biologie, on vient de citer Rosalind Franklin, mais il y a aussi en astrophysique, Jocelyn Bell, qui découvre les pulsars, sources de rayonnement électromagnétique. Donc, ses travaux sont publiés sous le nom de son patron, qui a obtenu le prix Nobel de physique en 1974, sans que Jocelyn Bell soit associée au prix. Après, on a en physique, on peut citer aussi Lise Meitner, qui collabore avec Otto Hahn et Fritz Strassmann, qui, pour arriver à la première fission nucléaire d'un noyau d'uranium. Seuls ses collègues masculins recevront le prix Nobel de chimie en 1944.
Ouais, on aura l'occasion de revenir sur cet effet Matilda dans une chronique dédiée à ce phénomène. Un autre obstacle qui se présente aux femmes lors de leur carrière scientifique, c'est ce qu'on appelle l'effet plafond de verre. Un effet qui d'ailleurs ne se limite pas uniquement au domaine scientifique et technique, mais que les femmes peuvent rencontrer dans leur carrière, quel que soit le domaine.
Alors plus généralement, on utilise cette expression pour désigner le fait que dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas accessibles à certaines catégories de personnes. Donc cette ségrégation est double pour les femmes, à la fois horizontale, parce que les femmes sont concentrées dans des secteurs un peu particuliers et confinées à certaines tâches, et de façon verticale, parce qu'elles ont du mal à accéder aux postes à responsabilité.
Ouais, c'est d'ailleurs un paradoxe en particulier en France, parce que les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes, avec une durée d'études qui est généralement plus longue. Et pourtant, elles sont encore très peu représentées dans les postes à grande responsabilité. Et quand elles y arrivent, elles mettent en général plus de temps que les hommes à obtenir ces postes. Alors comment on explique ce phénomène ?
Il peut y avoir deux explications. La première, c'est tout simplement l'ancrage des stéréotypes sexistes, de la part des hommes, comme des femmes, entre elles d'ailleurs. On parle de sexisme inconscient. Pour donner un exemple, il y a une expérience sociologique qui a été menée aux États-Unis avec deux jurys mixtes, composés d'autant d'hommes et de femmes. Chaque jury devait juger un CV moyen avec les mêmes expériences, les mêmes formations, donc vraiment les mêmes caractéristiques. Sauf que le premier CV était signé John et le deuxième était signé Jennifer. Je vous laisse deviner quel CV a été choisi.
On n'a pas besoin de roulement de tambour, je pense que c'était celui de John.
En effet, malgré la mixité du jury, les stéréotypes inconscients ont frappé. C'est John qui a été le mieux jugé avec un poste équivalent à 4000 euros de plus par an que Jennifer. La deuxième explication au paradoxe du plafond de verre, c'est l'autocensure des femmes, qui ont tendance à moins réclamer les postes à responsabilité que leur homologue masculin.
Et du coup, une fois qu'on a dit tout ça, l'effet Matilda, le plafond de verre, etc., on peut se demander comment on fait concrètement pour aider les jeunes filles, par exemple, dans notre entourage, à se projeter dans une carrière scientifique, à lui donner le goût pour les sciences.
À mon sens, la première chose à faire, c'est lutter contre les stéréotypes de genre, en particulier ceux que l'on véhicule dans l'éducation de nos enfants. Il faut arrêter avec cette idée que les sciences intéressent plus les garçons que les filles, et que les filles seraient plus douées pour les activités littéraires, par exemple.
Oui, vous-même, avant de travailler chez Altec, vous avez été confrontée à ces stéréotypes de genre au début de votre carrière.
Oui, j'ai commencé comme j'ai été une des premières femmes techniciennes de la région Rhône-Alpes pour une grande boîte informatique américaine. Une des petites anecdotes que j'ai, c'est que par exemple, lors de la prise de rendez-vous pour des dépannages informatiques, on me demandait régulièrement de quel technicien j'étais la secrétaire. Et puis lors de mes interventions, j'ai aussi eu des remarques très sexistes de certains hommes qui me conseillaient de retourner derrière mes fourneaux. Mais heureusement, voilà, depuis l'époque, les choses ont beaucoup évolué.
Ouais, et c'est plutôt tant mieux. La question du genre, ça interroge aussi nos pratiques professionnelles en tant que médiateur de la culture scientifique. Il nous arrive souvent dans nos activités dédiées aux enfants d'avoir des parents qui nous demandent tout à fait naïvement et en toute bonne foi si nos activités sont aussi adaptées aux filles. Alors certes, la question peut faire sourire, mais pourtant elle montre bien l'ancrage des stéréotypes de genre. Et c'est là où nous, on se retrouve nous-mêmes dans un paradoxe. Est-ce qu'on doit proposer des animations qui s'adressent aussi bien aux garçons qu'aux filles, mais avec le risque finalement de voir peu de filles qui y participent ? Et je vous avoue que concrètement, c'est ce qui passe dans nos activités Altec, où on a une majorité de garçons. Ou alors, est-ce qu'on doit faire des propositions genrées au risque de tomber dans de la science girly avec blouse rose, tube à essai, pailleté, etc., etc. C'est de la caricature, mais des fois, on se pose un petit peu la question.
Clairement, il ne faut pas tomber dans la caricature de la science girly pailletée, qui reviendrait à de la science vulgarisée spécialement pour les femmes, comme au 19e siècle. Donc la lutte contre les stéréotypes du genre, c'est l'affaire de tous, médiateurs comme des parents. Il ne faut pas hésiter à proposer aux filles de découvrir les sciences via des activités ludiques, comme celles proposées par Altec, parce que oui, nos activités sont bien adaptées aux filles et aux garçons. On peut aussi donner goût aux sciences aux jeunes filles à travers des livres ou en leur offrant des jeux scientifiques que l'on trouve en général au rayon garçon des magasins de jouets.
Véridique.
Je vous invite d'ailleurs à en faire l'expérience par vous-même en cette période de fin d'année et de chercher dans quelle rubrique sont rangés les jeux et jouets scientifiques.
Ouais, et puis on n'oubliera pas également de donner des exemples de femmes scientifiques, des rôles modèles, comme on dit, dans lesquels les jeunes filles peuvent se projeter pour susciter des vocations. Ce sera du coup l'objet des prochaines chroniques de cette émission. Nous aurons à cœur de vous présenter des portraits de femmes scientifiques exceptionnelles, d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Et si cela peut susciter quelques vocations scientifiques, nous en serons ravis. Merci Claire d'avoir ouvert cette nouvelle saison sur Radio B avec moi.
Merci Camille.
Et puis pour finir sur une note un peu personnelle, je voulais simplement dédier cette chronique aux enseignants que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon parcours, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. C'est grâce à eux que j'ai découvert ce goût pour les sciences et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu en faire aujourd'hui mon métier. Animée par cette même passion du partage, de l'ouverture d'esprit et de l'émancipation intellectuelle, il est important, surtout en cette période, de remercier les personnes qui ont su allumer quelques lanternes sur notre chemin de la connaissance. C'est donc à vous, chers enseignants, que je souhaite dédier cette chronique. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique dans les pas des géantes. Retrouvez d'autres portraits de femmes scientifiques inspirantes et toutes les autres chroniques d'Altech sur le site radio-b.fr. À bientôt !